C'était cette semaine la saison des Nobel et c'est à partir d'aujourd'hui la fête de la science, l'occasion pour nous dans les matins du samedi de France Culture de parler physique. Bonjour Édouard Brézin.
Bonjour Caroline.
Vous êtes physicien, professeur émérite à l'École Normale Supérieure, à l'Université Pierre et Marie Curie, à l'École Polytechnique. Vous avez été président de l'Académie des Sciences, président du Conseil d'Administration du CNRS et président de la Société Française de Physique. Il y en a bien d'autres qu'on pourrait dire, mais ça nous permettrait de rester jusqu'à 9 heures à aligner votre pédigré. C'était mardi le prix Nobel de physique et il a été attribué à trois Américains, Barry Barish, Kip Thorne et Rainer Weiss. Voilà. Quelques jours plus tôt, c'était deux Français, Thibaut Damour et Alain Brillet, qui recevaient la médaille d'or du CNRS. Et tous les cinq ont été récompensés finalement pour les mêmes contributions, leur contribution majeure à la détection des ondes gravitationnelles. Alors pourquoi les Français n'ont pas obtenu le Nobel comme les Américains ?
Bien, c'est une coopération internationale. Il y a des instruments qui ont fait cette découverte extraordinaire aux États-Unis. Il y a un instrument en Europe, en Italie, à côté de Pise, qui est franco-italien, qui s'appelle Virgo. Et le jury Nobel a, plutôt que d'indiquer les universités comme Caltech ou MIT où travaillent les Américains, a simplement indiqué, après leur nom, collaboration Virgo-LIGO.
C'est-à-dire LIGO étant le nom américain du détecteur.
LIGO étant le nom américain et Virgo le nom européen. Donc, il est clair qu'il y a une vaste communauté qui a travaillé derrière ce projet extraordinaire qui a commencé il y a peut-être une quarantaine d'années dans sa conception et qui enfin a abouti après une phase dans laquelle il a fallu améliorer parce qu'on voyait rien et puis on a fini par voir. Alors ça a été vu effectivement aux États-Unis à un moment où le projet européen était encore en voie de finalisation. C'est-à-dire qu'il avait fallu améliorer les détecteurs. Donc le premier événement qui a été vu fin 2015, annoncé en février 2016, qui est la découverte des ondes gravitationnelles par coalescence de deux trous noirs. C'était la première fois qu'on voyait ces ondes, la première fois qu'on voyait directement des trous noirs. Jusque-là, on avait des effets indirects. On voyait des trous noirs, par exemple, dans notre galaxie, un énorme trou noir.
Comment on définit un trou noir, Edouard Brézin ?
Alors, un trou noir, bien, il faut rentrer cette fois-ci dans l'histoire un tout petit peu. On remonte à Einstein 1915, suivi en 1916 de quelqu'un qui s'appelle Schwarzschild, qui résout les équations d'Einstein et qui s'aperçoit qu'il y a une possibilité bizarre dans laquelle on peut avoir une masse qui est entourée de ce qu'on appelle un horizon d'événements. Et un observateur qui franchit cet horizon, c'est de la science-fiction bien évidemment, mais quand il franchit, lui s'aperçoit de rien, mais plus jamais ne pourra communiquer avec l'extérieur, et donc il y a comme deux mondes séparés. Ces masses qui fabriquent des trous noirs ne permettent plus à quoi que ce soit de s'échapper, ni la lumière, ni rien. C'est encore un des grands problèmes actuels de savoir comment ces trous noirs fonctionnent à l'échelle microscopique, mais c'est indubitable, ils existent, et donc au centre de notre galaxie, on sait qu'aujourd'hui il y a un trou noir qui a, je parle, de l'ordre d'un million de masses solaires, et la seule chose qu'on voyait jusqu'à présent, c'est des étoiles qui tournent autour de rien. Et donc on se disait, il faut qu'il y ait quelque chose au centre, d'où ce trou noir. Là, c'est une vision directe. C'est deux trous noirs, l'un qui doit avoir 35 fois la masse du Soleil, l'autre une trentaine, qui tournent autour
de... Énorme.
Ah ben oui, c'est pas énorme à l'échelle de... Oui, il y a des trous noirs beaucoup plus gros.
À l'échelle de nous, on va dire,
voilà,
déjà.
À notre échelle, c'est quand même considérable. Ces deux se mettent à tourner l'un autour de l'autre, et puis dans un temps qui est de l'ordre d'une fraction de seconde, je crois qu'on observe ça pendant 0,2 secondes, ils forment une coalescence, un nouveau trou noir qui a pas tout à fait les 65 masses.
Il fusionne,
il tourne autour de l'autre et il fabrique un trou noir de nouveau.
Comme une
collusion. Et ça n'a pas tout à fait la masse de 65 à laquelle on pourrait s'attendre, mais 62 seulement apparemment, parce qu'il y a trois masses solaires l'énergie équivalente à trois masses solaires qui sont émises sous forme d'ondes gravitationnelles. Et c'est ça que les détecteurs américains vont voir.
Et depuis, en premier.
Et puis depuis, il y a eu deux autres événements. Le dernier annoncé en janvier de cette année. Et cette fois-ci, le détecteur européen marche aussi. Ils sont liés les uns aux autres. Et donc, les deux détecteurs américains et le détecteur européen ont vu en même temps, en janvier, de nouveau un événement de cette nature.
Oui, c'est pour ça que je vous posais cette question, d'abord, Édouard Brézin, de pourquoi les Français n'ont-ils pas été associés à ce prix Nobel. Bon, vous dites qu'effectivement, les deux noms des deux détecteurs sont mis sous la récompense. Mais ça ne veut pas dire que les Français sont à nouveau moins bons que les Américains. Quand on pense au classement de Shanghai, à ces universités américaines qui dominent le monde. C'est un vrai travail de coopération.
Absolument. Et si vous me permettez d'aller un tout petit peu au-delà pour expliquer les médailles d'or du CNRS, qui ont été particulièrement bienvenues quelques jours avant le prix Nobel, lorsqu'on regarde le signal enregistré par ces interféromètres, c'est ça le nom des machines, c'est un signal extraordinairement bruité, c'est-à-dire qu'on ne voit rien. Pour voir quelque chose, il faut le filtrer pour savoir est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce bruit, est-ce qu'il y a un signal significatif. Ce filtrage demande d'abord des outils mathématiques qui, par exemple, doivent à Yves Meyer, qui vient d'avoir la médaille Abel de mathématiques, la plus haute récompense. Ils doivent aussi aux gens qui ont fait des calculs en se demandant si jamais il y avait une collusion de trous noirs, que verrait-on ? Et en particulier, Thibaud Damour, remarquable physicien français, qui vient donc d'avoir la médaille d'or, a fait des calculs qui permettent d'identifier, dire « Ah oui, ce qu'on a vu là, ce sont la collision de trous noirs, qui avait telle masse, etc. » Donc, les calculs de Thibaud sont essentiels, de même que l'expérience est une merveille. Les expériences sont des merveilles absolues. Il faut se rendre compte quand même que le passage d'une onde gravitationnelle, c'est une distorsion de l'espace-temps. Distorsion de l'espace.
L'espace-temps, c'est quoi l'espace-temps ?
Alors, c'est l'espace et le temps, mais la gravitation. Ouais, voilà. La gravitation, on le sait depuis Einstein, c'était ça, la révolution d'Einstein de la relativité générale, mais c'est que les masses change, courbe l'espace et le temps. On n'y croyait pas au départ. Einstein pensait que ces ondes gravitationnelles étaient beaucoup trop ténues pour jamais pouvoir être observées. On croyait pendant longtemps que la relativité générale, c'était une affaire de physiciens, mais que ça n'intéresserait personne. Je signale quand même que la distorsion du temps par la gravitation, la compréhension de cette distorsion, c'est ce qui permet de faire marcher le GPS. Si on n'avait pas la relativité générale, le GPS ferait des erreurs de kilomètres par jour. Donc, serait totalement inutilisable. Donc, ça n'est plus un concept ésotérique, théorique, réservé au laboratoire, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, de même que les ondes électromagnétiques au 19e siècle, prédites par Maxwell et observées après sa mort, là aussi, par Hertz, personne ne savait combien elles allaient modifier notre quotidien.
Oui, mais Édouard Brézin, observer les ondes gravitationnelles ou voir directement, comme vous le disiez tout à l'heure, les trous noirs et donc observer ces vibrations que provoque la collusion des deux trous noirs, est-ce que ça, c'est une découverte, on va le dire quand même, majeure pour les astrophysiciens ou pour tout le monde? Thibaud Damour, que vous citiez, disait que c'est une nouvelle façon de voir l'univers. Et Barry Barish, le prix Nobel, insiste là-dessus. C'est comme Galilée regardant dans sa lunette, c'est une nouvelle percée en astronomie. Alors, en quoi est-ce important aussi pour nous?
Alors, je crois que l'idée d'un univers dans lequel les masses peuvent influencer à la fois sa géométrie et l'écoulement du temps, nous concerne quand même tous, quand on s'interroge quand même un peu tous sur l'univers, sur ce que c'est que le temps, et il est clair que je ne vais pas répondre, mais que on ne peut pas se poser la question sans remonter à Einstein. Le fait qu'il existe des trous noirs, et que ces trous noirs soit une sorte de singularité. Lorsqu'on franchit le trou noir, comme je le disais tout à l'heure, toute communication est rompue. Mais l'observateur qui franchit le trou noir, il ne s'en apercevrait pas, il ne se passe rien. Ça n'est pas une coquille physique, un œuf qu'on briserait. On rentre à l'intérieur, et à l'intérieur, il y a cette singularité qui est le trou noir, peut-être quasi ponctuel, où la densité est infinie, et on ne sait pas vraiment, à l'heure actuelle, ce que c'est. Il y a des effets quantiques, comme on dit, et ne me demandez pas de rentrer là-dedans, mais qui font que le trou noir n'est pas tout à fait aussi simple qu'on pouvait le croire. Depuis Monsieur Hawking, que tout le monde connaît, on sait que les trous noirs peuvent s'évaporer par effet quantique. On est là à la frontière de la physique de notre temps. Mais vous m'interrogiez pour tout le monde. Eh bien, pour tout le monde, le fait de savoir s'il y a un univers, ou plusieurs univers, est-ce que le trou noir pourrait être une autre façon d'avoir ce qu'on appelle actuellement, on est en plein dans la spéculation, des wormholes, des trous de ver vers d'autres univers. Vous voyez, on est dans la spéculation qui pourrait un jour nous instruire sur cette vision globale de l'univers que nous recherchons tous à comprendre.
Ce qui est extraordinaire, Édouard Brézin, quand on vous écoute parler, c'est que moi, j'ai l'image, je vous vois et je vois les yeux qui pétillent et le sourire dans votre voix. Vous dites c'est merveilleux, souvent on entend votre émotion et je la vois en plus, votre émotion devant ce type de découverte qui montre quand même aussi des écarts considérables, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible et de l'imperceptible. Effectivement, on se demande pourquoi on n'a pas vu ça avant. Alors c'est tout un réseau de détecteurs qu'il fallait mettre au point d'expérimentation, c'est un temps long, d'où l'importance du temps long de la recherche. Mais c'est aussi l'infiniment grand et l'infiniment petit, parce que là on parle de vibrations infimes, toute petite, causées par des événements cosmiques cataclysmiques. Donc enfin, il y a quelque chose de à la fois d'inimaginable, mais du coup de très beau. Même les mots utilisés peuvent être très poétiques quand on parle des ondes gravitationnelles.
Oui, je sais pas si...
C'est moi qui m'emballe, hein, là.
Oui, mais moi aussi, je trouve que c'est merveilleux. Il faut se rendre compte quand même que l'événement est vu parce que lorsque l'onde passe, l'un des deux bras de l'interféromètre, je vais pas rentrer dans les détails, mais se met à avoir une longueur qui change d'une fraction de la taille d'un noyau d'atome. C'est-à-dire, il faut 10 puissance moins 21, pardonnez-moi.
C'est micro, plus que
c'est absolument, c'est un millième de taille d'un noyau d'atome. Donc, c'est une prouesse technique absolument invraisemblable, incroyable. Je reste émerveillé.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on le ressent pas. Puisque Thibaut Damour dit que ces ondes gravitationnelles font vibrer l'espace-temps qui nous entoure, oui, à la manière d'un veau engelé secoué par un cuisinier, quand je vous disais que les mots sont bon voilà. mais c'est aussi ce qui explique que c'est vraiment tout petit, c'est... qu'on ne ressent rien.
Voilà, on ne sent évidemment rien. C'est bien pour ça qu'Einstein pensait qu'on ne le verrait pas. Oui. Mais voilà, après beaucoup d'habileté, ça a été vu. Et c'est vrai que ça ouvre la porte à une nouvelle astronomie. En particulier, l'existence de deux observatoires aux États-Unis et d'un troisième en Italie, en Europe, fait qu'on peut faire ce qu'on appelle une triangulation, c'est-à-dire à partir de maintenant, un événement qui est venu par trois observatoires différents, ça permet de savoir d'où il est venu dans le ciel. Ce qui n'était pas le cas du premier événement. Sachant d'où il est venu dans le ciel, on peut pointer les télescopes ou les différents moyens d'observation pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et on nous dit que dans quelques jours, il va y avoir une annonce nouvelle, le 16 octobre, m'a-t-on dit. Je ne sais pas encore en quoi elle consiste, mais qui va nous dire qu'un nouvel événement observé par ces trois observatoires change assez sensiblement nos conceptions en astrophysique. Donc, je suis pas astrophysicien, c'est pas mon domaine de recherche, mais je suis émerveillé comme tout physicien par ce qui s'est passé.
Pour rester avec nous, il est 8h30, Édouard Brézin.
Merci,
et il est 8h30, et c'est l'heure tout de suite de la revue de presse. On vous retrouve tout de suite après la revue de presse.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
Et la revue de presse, c'est avec Mélanie Chalandon. Bonjour Mélanie.
Bonjour Caroline.
Cette semaine, la presse se fait d'abord l'écho d'un nouveau type d'écriture où le masculin ne l'emporte plus systématiquement sur le féminin.
Et il s'agit de l'écriture inclusive qui consiste tout simplement à donner autant de visibilité aux accords féminins qu'aux accords masculins. Exemple, bonjour, cher.e.s, auditeur.trice, êtes-vous prêt.e à entendre une chronique rédigée en écriture inclusive. Alors évidemment, à l'oral, c'est moins fluide, mais à l'écrit, c'est simple. Il suffit de rajouter de petits points entre les E et les S finaux. À l'origine du débat, la publication d'un manuel scolaire par les éditions Hatier pour des élèves de CE2 entièrement rédigé selon cette grammaire dite neutre. Mais l'idée, bien sûr, ne fait pas consensus. Pauvre lecteur, point trice, s'exclame l'éditorial du Figaro daté d'hier. Étienne de Montetti y dénonce une injure à la clarté et à la musicalité de la langue française. Du côté des opposants, on pourra également lire la tribune sur Slate de la romancière Abnous Chalmadi qui, paradoxalement, trouve que la féminisation de la langue renvoie les femmes à un statut d'être fragile et perpétuellement discriminée. Or, derrière la fragilité se dévoile la victime éternelle qui arrange les sexistes depuis des millénaires pour justifier sa mise à l'écart. Alors, l'écriture inclusive, mode passagère ou révolution dans la langue française ? À lire, pour prendre un peu de recul, l'entretien accordé par le linguiste Alain Rey au journal Le 1 à l'occasion du 50e anniversaire du Petit Robert. Qu'elle s'ouvre et qu'elle se modifie, dit-il à propos de la langue. Chaque année, c'est par milliers que surgissent de mots nouveaux. Alors en dépliant le journal, on découvre une fresque composée de ces nouveaux venus apparus depuis 50 ans. Transgenre, par exemple, en 67, zappé en 86, GPS en 89, bobo en 2000 et bien sûr, fake news en 2017.
Et à propos de fake news, on peut lire aussi cette semaine, Mélanie, le dernier numéro de l'excellente revue America.
Et oui, dans ce numéro 3 de cette nouvelle revue créée pour déchiffrer et comprendre l'Amérique de Trump, un grand entretien avec l'écrivain James Ellroy par François Bunel, James Ellroy pourfendeur du politiquement correct s'il en est. « Je suis un réactionnaire né, dit-il. Je n'ai aucune motivation morale. Je ne juge pas, je raconte. Mon ambition est d'écrire une histoire populaire, mais aussi une histoire secrète des États-Unis. » Il faut dire que sur la question de la vérité, James Ellroy a une vision bien tranchée. « C'est une sacrée foutaise, dit-il. Vous pouvez me dire, vous, ce qu'est la vérité. Tout le monde la fabrique, la vérité. Les politiciens, les historiens, les médias. Alors pourquoi pas les romanciers ? Par exemple, oui, il s'est avéré que les Japonais ont bombardé Pearl Harbor en 41, mais est-ce que cette vérité nous renseigne sur ce que pensaient les Américains et les Japonais avant que les bombes ne s'écrasent sur les navires ? Non, pour cela, il faut passer par la fiction, entrer dans la tête des gens bien comme des salauds. Et l'écrivain poursuit « Tout mon travail repose sur la quête de proportions justes, l'horreur, la beauté, la corruption, la rédemption, le bien et le mal. C'est ainsi que je vois l'écrivain, un homme au milieu d'une vie de passion qui tient tête à l'impossible. »
Et toujours à propos de vérité dans la presse également, les révélations du journal Le Monde ou comment Monsanto a manipulé des informations pour empêcher que son herbicide ne soit considéré comme cancérigène.
Et oui, révélations des journalistes Stéphane Foucard et Stéphane Aurel qui se sont plongés dans les fameux Monsanto Papers, ces dizaines de milliers de pages de documents internes que la firme a été contrainte de rendre public suite à une procédure judiciaire. Dans l'enquête, on découvre comment la firme a eu recours au ghostwriting. Les auteurs expliquent « Cette pratique consiste pour une entreprise à agir en auteur fantôme, alors que ses employés rédigent textes et études. Ce sont des scientifiques sans lien de subordination avec elles qui les endossent en les signant, apportant ainsi le prestige de leur réputation à la publication. » Ces derniers sont bien évidemment rémunérés pour ce précieux service de blanchiment, une pratique apparemment courante. Bien sûr, les chercheurs impliqués démentent avoir servi de prête-nom à Monsanto.
Et ce qu'on apprend aussi dans les Monsanto Papers, c'est que les premiers soupçons autour du glyphosate datent de 1983.
Et oui, alors que l'Europe doit décider fin octobre si elle renouvelle ou non l'autorisation accordée au glyphosate, on apprend que la firme interfère depuis près de 40 ans auprès des agences de réglementation. Un Monsanto, une affaire qui pourrait alimenter le climat de défiance envers la science. Mais pourquoi cette défiance, justement ? C'est la question que se posait le journal La Croix dans ses pages débat de vendredi et à retrouver sur Internet. Pour le physicien Sébastien Balibar, les controverses et les disputes font partie de l'essence de la science. Mais, précise l'historienne Emmanuelle Pérez, si la controverse est chose courante entre scientifiques, elle n'est pas bien comprise par le grand public. Elle a malheureusement tendance à produire du doute.
Merci Mélanie Chalandon pour cette revue de presse. Mais on va demander au physicien Édouard Brézin, qui est notre invité ce matin, ce qu'il pense, par exemple, de cette controverse entre Sébastien Balibar et l'historienne Emmanuelle Pérez. D'un côté, les disputes font toujours partie de la science, ça fait avancer la science, le doute fait avancer la science également. De l'autre, le problème, c'est qu'on ne comprend pas toujours dans le grand public. Vous avez fait un grand effort, et je vous en remercie de pédagogie tout à l'heure, pour nous faire comprendre le commencement, disons, des ondes gravitationnelles, mais ce manque de compréhension dans le grand public a tendance à produire du doute.
Oui.
De quel côté vous situez-vous ?
Oui, c'est un sujet extrêmement difficile et délicat. Il faut faire un peu attention. D'abord, le doute n'est pas complètement innocent. Je pense à une étude qu'avaient fait deux sociologues américains, Naomi Oreskes et je ne sais plus quelle étude.
Sur les marchands de doute.
Les marchands de doute. Un exemple qui m'avait frappé à l'époque, c'est qu'ils avaient trouvé un mémo interne à Philip Morris, qui est la grande société de tabac, qui disait très explicitement « Le doute, c'est notre business ». Ce qui voulait dire que les marchands de tabac avaient parfaitement compris qu'ils auraient du mal à dire dorénavant que le tabac c'était bon pour nous. En revanche, propager le doute, on ne sait pas, on n'est pas sûr, peut-être que le tabac c'est pas aussi méchant qu'on le dit. Donc, attention à la propagation du doute, je ne suis pas certain de son origine. Alors, il est vrai que au sein de la science, les controverses ont fait avancer la science à de nombreuses reprises. Et il est normal que, à un moment où la science se construit, plusieurs hypothèses soient formulées et qu'en définitive, à l'aide d'expériences en général, on finisse par trancher et arriver à ce qu'on peut appeler une vérité, mais une vérité en science, c'est pas un théorème comme en mathématiques. Hein. Une vérité en science a une portée relative. Alors, cela dit, du doute arrivé au relativisme, là, on est tombé dans ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire, si on considère que un faisceau vraiment large, très étayé par des expériences, conduit à une certaine conception, je pense par exemple au changement climatique, le nombre d'événements indépendants que nous vivons, qui nous laissent penser que l'homme a une influence sur le climat du fait de ses activités, me paraît plus raisonnable que ceux qui, comme Trump ou Claude Allègre autrefois, disaient « Ah non, moi j'y crois pas ». Là, mettre ça côte à côte, à valeur égale, est un problème. Et malheureusement, lorsque on lit la presse, je veux pas accuser les journalistes, mais on voit très souvent côte à côte l'opinion A et l'opinion B, qui reposent sur des choses, l'une assez quand même solide, et l'autre qui est simplement du doigt mouillé, et qui sont portés à égalité. Donc, il faut arriver dans cet univers difficile à ce que nos concitoyens se fassent une idée. Malheureusement, nous sommes dans un pays où le doute est très répandu. Si vous prenez les vaccinations, il y a eu une étude l'année dernière, une méta-étude, comme on dit, qui regardait le rejet des vaccinations dans différents pays développés, et on s'apercevait que en France, il y avait plus de 40% des gens qui disaient oh « ben, on n'est pas sûr que les vaccinations, c'est bon pour nos enfants ou pour nous », et alors que la moyenne des grands pays, c'était 12%. Donc, il y a un doute très, très répandu en France. Et alors, bon, c'est
qui peut être bon, qui peut être mauvais, qui peut mener à l'esprit critique, voilà, donc, mais qui peut aussi mener au relativisme.
Voilà, qui peut mener au relativisme. Alors, on accuse au hasard, par exemple, on accuse les adjuvants des vaccins. Or, si je comprends bien ce que me disent nos amis biologistes, sans adjuvants, il n'y a pas de vaccination, parce qu'il faut stimuler la réponse réponse immunitaire, il faut un adjuvant avant que le produit vaccinant puisse arriver à pénétrer. Donc, vous voyez, c'est compliqué et il faut faire attention de ne pas s'arrêter au premier venu, au premier mot venu, et faire attention à ce relativisme qui nous gagne.
Oui, mais en même temps, Édouard Brézin, quand vous dites, vous voyez, c'est compliqué, il ne faudrait pas non plus s'arrêter là en disant, justement, comme c'est trop compliqué, on ne va pas entrer dans l'explication. On a aussi besoin, d'où le deuxième aspect de cette question soulevée dans la revue de presse de Mélanie, on a besoin de comprendre, on a besoin que ça passe dans le grand public, justement pour se faire son propre avis. C'est l'idée d'ailleurs, c'est l'ambition de cette fête de la science qui commence aujourd'hui pour une semaine. C'est inviter tout le monde à observer, expérimenter, questionner, échanger. C'est le travail d'un scientifique tout ça, pour comprendre la science dans notre quotidien.
Bon, alors peut-être que les scientifiques ne font pas assez d'efforts, mais tous ceux que je connais sont quand même très disponibles lorsque nos concitoyens, et en particulier les jeunes, les lycées, etc., veulent avoir un dialogue avec des scientifiques pour aller leur parler. Sébastien Balibar, dont vous parliez à l'instant, l'a fait souvent, ça m'est arrivé aussi, bien sûr, et ainsi que beaucoup de mes collègues. Donc, il y a quand même une volonté de la part du monde scientifique d'aider nos concitoyens à réfléchir dans un univers où on entend des voix discordantes et pas toujours innocentes, comme j'ai essayé de le dire au début.
Édouard Brézin, vous êtes un physicien, donc vous êtes un chercheur, et un chercheur qu'on pourrait dire engagé, dans la mesure où, au début de l'année, avant les élections présidentielles, vous avez fait partie de ceux qui ont lancé une initiative à l'attention des candidats à la présidentielle sous la forme d'un questionnaire en ligne intitulé « Questions au pluriel, de sciences au pluriel et de technologies au pluriel ». Qu'a donné ce questionnaire au final ? Qu'est-il devenu ?
Alors, ce questionnaire a été mis en ligne. Il était destiné à être disponible pour tous nos concitoyens. Il a été consulté, je ne sais plus très bien, quelques dizaines de milliers de fois, c'est-à-dire un peu plus que ce que habituellement nous faisons. Notre but était de poser à tous les candidats des questions sur la façon dont ils concevaient les grandes questions d'aujourd'hui sur le climat, l'énergie, il y avait les vaccins, il y avait etc. etc. La plupart des candidats ont répondu, pas tous. Le Front National, Madame Le Pen n'a pas répondu. Bon, les réponses étaient souvent intéressantes, étaient très très argumentées. Je pense à celle du président, enfin de l'équipe d'Emmanuel Macron. Celle de François Fillon était très argumentée. Celle de Benoît Hamon également. Donc il y a eu un effort de réflexion de la part des candidats. Et je dois dire que notre but, c'était que, dorénavant, quelqu'un qui s'apprête à se présenter à une élection de cette ampleur se sente obligé d'avoir un discours aussi sur la science, une réflexion sur la science et sur l'éducation, bien sûr, mais sur ce qu'il aimerait en faire. Jusque-là, c'était quand même le parent pauvre, ou l'oublié, le non mentionné. Ils savent tous qu'ils doivent parler de l'économie, de la politique internationale, mais notre avenir scientifique et technologique, nous pensons qu'il est important qu'ils aient une réflexion aussi à ce sujet. Donc, j'espère que ceci l'a stimulé. Nous attendons.
Vous parliez tout à l'heure du climat, puis d'ailleurs ça faisait partie des questions de science. Vous savez que le président Macron a invité des chercheurs américains sur le climat à venir en France, puisque les conditions de travail là-bas sur le climat ne sont plus aussi favorables pour eux. Selon la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal, quelques 2500 chercheurs auraient déjà répondu à l'appel. Question, est-ce qu'on a de quoi les accueillir, même si par ailleurs le budget de la recherche est en hausse de quelques 50 millions d'euros.
Écoutez, je n'en sais rien, je ne tiens pas les cordons de la bourse. Je n'avais pas vu que c'était 2500. Moi, j'en étais à 10 fois moins, mais je crois la ministre, bien sûr. Il est clair que ceci ne pourra se faire qu'avec un effort spécifique. Si effectivement nous voulons fixer en France certains de ces chercheurs, je ne crois pas que nous ayons les moyens, dans l'état actuel des choses, de les accueillir sans qu'il y ait un effort particulier fait sur ce plan. La recherche française se porte bien. Il y a beaucoup d'éléments heureux, je ne vais pas revenir dessus, mais il est clair que à l'échelle de la recherche européenne, et en particulier de notre grand voisin allemand, les moyens de nos laboratoires sont très inférieurs. Donc, voilà, c'est ça la réalité des choses. Alors, on dit toujours, les chercheurs se plaignent, ils ne veulent plus d'argent, etc. Mais il y a un moment où, quand même, il faut être réaliste.
Il faut appeler un chat un chat.
Voilà, oui, si on veut accueillir ces gens, eh bien, il faut s'en donner les moyens.
Merci, Édouard Brézin.